Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'aggravation de la situation dans l'Église rend nécessaire de vous exposer ou de vous réexposer ce qu'est l'Église catholique. C'est un sujet qui est beaucoup moins souvent abordé que notre Seigneur Jésus-Christ, et pourtant le Concile de Trente, le catéchisme du Concile de Trente, dit qu'il est plus nécessaire de parler de l'Église que de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comme le disait Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Pour des raisons qu'il n'est pas nécessaire de développer ici, la conception de l'Église, la vérité sur l'Église, a été progressivement faussée, et on voit le résultat aujourd'hui. Un évêque courageux comme Mgr Strickland défend la foi et s'arrête au moment où le pape lui dit de se taire. Ou plus exactement, accepte d'être démis de ses fonctions épiscopales, c'est-à-dire de ne plus pouvoir parler et d'abandonner son troupeau. Cela repose à l'évidence sur une mauvaise doctrine de l'Église catholique. Je vais donc, comme je vous l'ai annoncé, faire toute une série de sermons sur ce qu'est l'Église. Je suis persuadé que cela d'abord vous rassurera, vous permettra d'être à votre place, ce qui est le plus important, et vous protégera contre l'Église conciliaire. Nous parlerons également de cette fausse notion d'Église qu'est l'Église conciliaire. Je vous ai fait un premier sermon « Avec qui sommes-nous en communion ?» parce que le catéchisme du Concile de Trente nous dit que la doctrine sur la communion des saints éclaire la doctrine sur l'Église. Elle est l'aboutissement de l'Église, ou plus exactement, comme dit le catéchisme du Concile de Trente, le développement de l'Église. Vous aurez constaté, à l'occasion du sermon « Avec qui sommes-nous en communion ?», que la doctrine sur l'Église n'est pas difficile à comprendre. Certainement, beaucoup d'articles sur l'Église ou d'enseignements qui sont donnés sur l'Église sont d'un niveau de séminaire ou d'université et par conséquent difficilement accessibles. Mais puisque le Concile de Trente nous dit que la connaissance de l'Église est une connaissance primordiale qui vient avant celle de Jésus-Christ, il est absolument nécessaire que tout chrétien comprenne cet enseignement, que cet enseignement soit à sa portée, facilement, même à celui qui a la foi du charbonnier. Lorsque Mgr Lefebvre parlait de l'Église, tout le monde le comprenait. Et tout le monde constatait que, à l'évidence, il avait raison dans son exposé. Non seulement cette doctrine est facile à comprendre pour quiconque a la foi, mais, nous le verrons, elle éclaire des doctrines beaucoup plus compliquées, elle résout même le problème de la société politique moderne qui, elle aussi, est gravement atteinte par la maladie de l'époque, par la révolte, pour le dire en un mot. Et beaucoup de chrétiens ne savent plus comment se conduire par rapport à la société civile, avec beaucoup de réponses désordonnées. C'est le sens de l'Église qui leur rendra le sens de la chrétienté et, par conséquent, le sens de la société civile, y compris ce que doit être l'attitude d'un chrétien dans une société devenue athée, païenne ou pire, révoltée. quand on pense qu'un professeur de la théologie de l'Église, dans un grand séminaire important, ose déclarer dans son cours sur l'Église qu'il n'étudiera pas la communion des saints parce que ce n'est pas son sujet et qu'il étudiera seulement l'institution, c'est évidemment très grave. Parce que cela coupe l'Église de sa signification profonde, avec qui sommes-nous en communion, et la réduit à une simple institution avec des organes de fonctionnement. Première partie donc, qu'est-ce que l'Église? Quelle est sa définition? L'Église est une société. Ça ne suffit pas, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de sociétés, de beaucoup de types, et il va falloir définir quelle société précise elle est. Mais justement, si on va trop vite, on oublie de rappeler qu'elle est une société, et c'est à ce moment-là qu'on perd les pédales. Et pourtant, c'est très important et c'est très simple de comprendre ce qu'est une société. Aristote dit que toute société est une amitié et que toute amitié est une société. Ne vous étonnez pas que je cite si souvent Aristote. Saint Thomas d'Aquin en a fait la base de son enseignement et Aristote a étudié d'une manière splendide ce qu'est l'amitié. Et saint Thomas d'Aquin s'est servi du traité de l'amitié d'Aristote pour exposer ce qu'est la charité. Saint Thomas nous dit « la charité est une amitié ». Alors une amitié précise, bien sûr, une amitié divine, spéciale, mais une amitié. Donc vous voyez que de vous dire que l'Église est une société, dès le début, cela nous oriente vers la charité, nous met dans la charité de Dieu. Si nous oublions de dire que l'Église est une société, alors nous oublions de dire que l'Église est une amitié, et alors on diminue l'importance de la charité dans la définition de l'Église. Pourquoi hésite-t-on à dire que l'Église est une société? Parce que lorsqu'on pense à une société, on pense à la société civile. Or, aujourd'hui, le sens de la société civile a été complètement déformé. On a beaucoup de mal à voir et à admettre qu'une société est quelque chose de spirituel, qu'une amitié est quelque chose de spirituel, et nous avons tendance à voir une société sous un aspect concret, j'allais dire presque visuel. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tous les livres, les articles, les chapitres de catéchisme qui parlent de l'Église illustrent pratiquement tous, quand ils ont besoin d'une image, d'un dessin, ils donnent pratiquement tous l'illustration par saint Pierre de Rome ou par le pape. Et cela entretient un faux état d'esprit sur l'Église, comme si l'Église c'était le pape ou Saint-Pierre de Rome où le pape officie. Et on ne peut pas donner d'illustration sur l'Église, c'est pas possible. Comment voulez-vous donner une illustration sur la charité? Ou bien alors il faut prendre l'image du Sacré-Cœur de Sainte Marguerite Marie à la Coque, non pas de Jésus homme montrant son cœur, mais du cœur de Jésus, le cœur, couronné d'épines et transpercé. Ou bien il faut donner l'image de la croix, expression la plus haute de la charité de Dieu, de la charité du Christ pour Dieu. Prenez l'exemple d'une famille. Une famille est un être spirituel. Vous mettez un homme, une femme et des enfants ensemble, ça ne fait pas une famille. Surtout si chacun est prêt à partir de son côté à partir du moment où ça ne plaît plus, alors là c'est encore moins une famille. Une famille, c'est un lieu, mais pas un lieu physique. Et il y a des familles qui n'ont pas de maison, ça ne les empêche pas d'être une famille. Ça n'est pas très facile, Mais regardez, pendant l'Exode, vous aviez des familles qui roulaient sur les routes, qui marchaient sur les routes sans avoir de maison. Le père peut être absent, la famille demeure. Le père peut même être mort, la famille continue à exister. Qu'est-ce qu'une famille ? C'est une amitié. Une amitié autour de convictions communes. Une famille chrétienne, c'est autour de la foi. C'est la pratique de la vertu en commun. C'est la formation à la vertu, puisque les enfants doivent être éduqués, formés à la vertu. Mais lorsque vous avez une famille de grands, supposez une famille dans laquelle il n'y ait plus de petits, vous n'avez que des grands, l'éducation est achevée. Pourtant, la famille continue à exister et elle vit de cet enthousiasme de joie commune, d'idéaux communs ou d'idéal commun, d'une pratique commune de la vertu. Bref, une famille, même composée d'hommes concrets ayant un corps, c'est une société spirituelle. Voyez les anges du ciel, qui n'ont rien de matériel. Ils forment une grande amitié autour de Dieu, et donc une grande société. On parle de la société des anges. Allons voir dans le catéchisme du Concile de Trente comment il définit l'Église. Le catéchisme du Concile de Trente, contrairement au catéchisme de Saint Pie X, ne donne pas des formules brèves et concises à apprendre par cœur. Il donne plutôt des explications, des descriptions, de manière à faire mieux entrer dans le cœur du sujet. Et voici ce qu'il dit. Le mot « Église » signifie « convocation, assemblée ». Convocation, cela veut dire « appeler avec », »,« appeler ensemble ». Vocation, c'est un appel. Donc « appeler ensemble ». Appeler à quoi ? Le catéchisme poursuit, dans le sens de convocation, nous voyons aussitôt briller à nos yeux la douceur, la lumière de la grâce divine. Donc, appelez à la lumière et à la douceur de la grâce divine. Tous ceux qui sont appelés à la lumière et à la douceur de la grâce divine, c'est cela l'Église. C'est cela qu'on cherche dans l'Église, c'est cela qu'on trouve. Non, ce n'est pas ça qu'on cherche, puisque justement on l'a trouvé. C'est cela qu'on trouve dans l'Église, et c'est cela dont on vit. N'allons pas croire qu'avec ces formules un peu faciles à comprendre et puis qui peuvent paraître littéraires, le catéchisme du Concile de Trente ne soit pas théologique. Au contraire, on découvre sous des mots très simples un sens très profond avec des mots parfaitement choisis. Le catéchisme poursuit, l'apôtre saint Paul appelle l'Église la maison et l'édifice de Dieu parce qu'elle est comme une famille dans laquelle tous les biens spirituels sont communs. On l'appelle également troupeau des brebis de Jésus-Christ ou bien épouse du Christ. Le père Calmel a un article dans lequel il parle de l'épouse du Christ, et il dit cela immédiatement, fait référence à la charité. Qui dit épouse, dit amour. Et c'est pourquoi le père Calmel affirme que la charité est un élément essentiel de la définition de l'Église, et ce n'est pas difficile, puisque la charité est une amitié, et que l'amitié est une société, et que l'Église est une société. Enfin, le catéchisme du Concile de Trente nous dit que l'Église a été représentée dans l'Ancien Testament par l'arche de Noé. Bien sûr, on a là quelque chose de matériel, une arche. Enfin, nous nous rendons bien compte que cette image est en réalité très spirituelle. Et il ne viendrait à personne de définir l'arche de Noé par Noé. L'arche de Noé, c'est ceux que Dieu sauve parce qu'ils lui sont fidèles. Puisque l'Église est une charité et une amitié. Qu'est-ce que l'amitié ? L'amitié est ce qui réunit les amis dans la pratique d'un même bien, dans une même vie. L'amitié est quelque chose de vital. C'est une pratique de vertu, d'activité humaine. Ce qui définit l'amitié qu'est l'Église, c'est la foi, la charité, la pratique des vertus chrétiennes, et en tout premier lieu de ces vertus morales, la vertu de religion, avec une unité profonde qui est donnée par la charité, puisque la charité est l'âme de toutes les vertus. Et que finalement, les vertus morales, c'est une manière de pratiquer la charité. L'activité des amis, c'est tout d'abord de travailler au développement de l'amitié, faire du bien à l'ami, et c'est donc dans l'Église travailler au développement de la foi et de la charité. Ça, c'est la première activité des amis, ce qu'on appelle la bienveillance, vouloir du bien. Le bien que nous voulons, le bien auquel nous travaillons dans l'Église, c'est le développement de la foi et de la charité, comme l'amitié d'étudiants qui font un club de ski, c'est de perfectionner leur pratique du ski. Pratiquer le ski et le perfectionner. Donc développer la foi et la charité. Deuxièmement, il y a une concorde, et cette concorde, c'est d'abord de vivre ensemble. Des amis vivent ensemble, soit physiquement, dans la même maison ou très proches l'un de l'autre, ils se voient, soit spirituellement, loin des yeux mais près du cœur. Et nous, nous vivons ensemble avec tous les saints, c'est la communion des saints, ni plus ni moins. Les amis choisissent les mêmes choses. Ce que nous choisissons, nous tous les chrétiens, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Choisir les mêmes choses, c'est évidemment écarter les mêmes choses, le mal, défini par les commandements de Dieu et par la morale catholique. Et enfin, pratiquer l'amitié, c'est participer aux mêmes peines et aux mêmes joies. Tous les chrétiens participent aux peines et aux joies de Jésus-Christ, qui est le premier de tous les chrétiens, bien entendu. Nous vivons tous des joies de Jésus-Christ, qui sont des joies qui viennent du ciel, et nous souffrons tous des peines de Jésus-Christ, qui est de voir que tant et tant d'hommes qu'il a voulu sauver n'ont pas encore reçu le salut, alors que tant qu'ils sont sur terre, il veut encore leur salut. Voilà, mes bien chers frères, vous voyez que ça n'était pas compliqué. Et vous voyez que cela va grandement nous aider à répondre aux questions, aux difficultés, résoudre les difficultés des chrétiens aujourd'hui avec ce problème de la hiérarchie de l'Église qui fait tout pour la subvertir. Si on a une mauvaise définition de l'Église, on est dans le désarroi. Si on a une bonne définition de l'Église, on est dans la paix. Je relis actuellement le livre Monseigneur Lefebvre, Nos rapports avec Rome. Il y a un texte dans lequel Monseigneur décrit toutes les luttes de l'Église aujourd'hui. Et il conclut, c'est pourquoi nous sommes en paix. Eh bien, mes bien chers frères, que la paix du Christ soit avec vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.